Dame sagesse. Déchue. La folie est l'équivalent de la sagesse, mais en mal. Vous vous souvenez que dans la leçon précédente, Salomon présente la sagesse, c'est-à-dire les principes créationnels de Dieu, comme une femme. La sagesse, dit-il dans Proverbes au chapitre 1 à 9, est comme une grande dame qui invite, corrige, enseigne, protège, bénit et exalte ses enfants humains. Elle apporte beauté, ordre et vie à la création. Salomon dit que la folie aussi est comme une femme. Les exemples, les rôles et les motivations de la folie sont des déformations perverties de la beauté et de la justice que nous voyons dans la sagesse. La sagesse est une personnification des principes de la création de Dieu. La folie personnifie les principes de la malédiction, l'orgueil, la tromperie, la mort et la destruction. Alors que la sagesse cherche à donner la vie à ses enfants, la folie cherche à tromper les siens et à les faire sombrer dans la mort. La sagesse et la folie, personnifiées en femme, sont toutes les deux des archétypes féminins. Un archétype est un modèle ou un exemple originel. En tant que femme, nous allons devenir avec le temps soit davantage comme la sagesse ou davantage comme la folie. Depuis l'Antiquité, la société fonctionne avec des modèles, soit bons, soit mauvais. Consciemment ou inconsciemment, nous suivons toutes des exemples pour notre sexe et des modèles de rôle. Les médias de notre époque moderne ont accéléré la diffusion de telles images à une vitesse qui donne le tournis. Heureusement, nous avons des exemples intemporels dans les Écritures qui sont des repères pour notre sexualité. Nous n'avons pas à dépendre de la télévision ou d'un magazine pour façonner la féminité. Je préfère de loin dépendre du Saint-Esprit et de Salomon pour faire une ébauche de la féminité, sage ou folle, que de me retrouver avec une succession de stars exagérément adulées et remplacées aussitôt par d'autres idoles mondaines. Lorsque notre seconde fille avait 10 ans, elle a décrit ainsi la femme perverse. C'est une Jézabel, comme Delila. Cela nous a fait sourire, mon mari et moi, mais nous étions reconnaissants qu'elle reconnaisse dans la Bible des exemples de femmes de folie, et ce, en double dose. Une vue générale des chapitres 1 à 9 de Proverbes servira d'introduction au caractère de la folie et de révision au caractère de la sagesse. Au chapitre 1, le père met en garde son fils contre les mauvais compagnons. Au verset 20 à 33, Salomon inclut le premier grand message de la sagesse à la première personne. Elle appelle les insensés. En gros, voici ce qu'elle dit. « Prêtez l'oreille, si vous ne m'écoutez pas et que la calamité vous frappe, je ne vous aiderai pas. » Nous devons répondre à la sagesse et à sa discipline au jour de la formation si nous voulons recevoir son aide au temps de l'épreuve. Au chapitre 2, 3 et 4, le père développe ce qu'est la nature riche et avantageuse de la sagesse. Il exhorte son fils à plusieurs reprises à rechercher la sagesse, mettant l'accent sur le fait qu'elle est une récompense précieuse et désirable. Proverbe 3, versets 13 à 18, en est un passage représentatif. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. » Dans la partie centrale, au chapitre 5, 6 et 7, l'attention se tourne vers la nature de la folie et les avertissements contre les différentes sortes de folies. Dans chaque chapitre, une grande partie est consacrée au danger de la femme adultère. Sans aucun doute, l'adultère est une folie importante en soi. Mais il existe beaucoup de formes de folie. L'alcoolisme, l'endettement, la paresse, le commérage, etc. La femme adultère de ces versets n'est pas seulement et simplement une femme adultère. C'est également une image et une représentante de la folie elle-même, un mal plus grand et plus complet qu'une simple personne adultère. Réfléchissez par exemple à Proverbe 5, verset 3, et au verset suivant. « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. » Puis au verset 8, « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. » En Proverbe 6, versets 24 à 35, nous retrouvons une fois de plus le même genre d'avertissement contre les conséquences destructrices de l'adultère. Le chapitre 7 parle du même sujet. Ce passage présente une scénette moralisatrice mettant en scène la femme adultère et le jeune insensé étant dans la rue sous la fenêtre de l'écrivain. La capture du jeune insensé par la femme adultère et sa destruction qui en résulte sont décrites avec beaucoup de détails. On lit en Proverbe 7, versets 6 à 23. « J'étais à la fenêtre de ma maison. Et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvée. » Remarquez comment elle le trompe, sous une fausse apparence de religiosité, et le flatte en le proclamant unique et spécial. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Le chapitre 7 se termine par les versets 25 à 27. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Nous savons que de simples femmes adultères sont destructrices pour des jeunes gens. Mais vous pouvez voir que la description de cette femme, ici, est plus vraie que nature. Sa maison est véritablement la porte de l'enfer. Elle conduit elle-même les hommes à la boucherie et à la mort. Comme le chapitre 9 le dit clairement, cette femme adultère n'est pas simplement adultère. Elle représente la folie elle-même, celle qui séduit chacun de nous par la flatterie et le plaisir mondain avec l'intention de nous détruire. Au chapitre 8, la sagesse donne son discours culminant, révélant son origine, sa nature et ses bienfaits pour les hommes sages. Elle avertit de nouveau des affreuses conséquences qui en découlent pour ceux qui la rejettent. Au chapitre 9, Salomon fait une mise au point nette de son prologue. Dans ce chapitre, il met les deux thèmes côte à côte dans un contraste flagrant. En Proverbe 9, versets 1 à 6, nous avons la sagesse féminine en contraste avec la folie féminine de Proverbe 9, versets 13 à 18. Cela commence par Proverbe 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. La sagesse est une grande dame qui fait des préparatifs somptueux dans une maison fabuleuse. Elle invite les insensés, les ignorants, à entrer chez elle et à apprendre d'elle, leur promettant la compréhension et la vie. Le milieu du chapitre 9, versets 7 à 12, décrit les deux sortes de personnes qui reçoivent l'invitation de la sagesse. Les insensés et les moqueurs d'une part, et les hommes sages de l'autre. La présentation contrastée de la folie commence au verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Selon la version Louis II, on lit dans d'autres traductions. Elle ne connaît aucune honte et elle est éhontée. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour rire aux passants qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. La folie offre un contraste total avec la sagesse. La folie n'a pas de grande maison. Elle n'a pas fait de grands préparatifs. Tout ce qu'elle a à offrir, c'est du pain et de l'eau, comparé aux mets riches qui sont la viande et le vin. Quel est son attrait? Son piège est la nature illicite de ce qu'elle offre. Du pain volé, mangé en secret. Beaucoup de choses dans ce monde sont attirantes non à cause de leur valeur propre, mais à cause de leur aspect illicite. La drogue, l'alcool, la promiscuité sexuelle, les jeux d'argent et toutes les sortes de malhonnêtetés, du vol à l'étalage à la fraude, donne le frisson de l'interdit et du secret. C'est le grand charme de la folie, mais c'est un charme qui conduit à la mort. La folie et la sagesse ont au moins une chose en commun. Elles commencent toutes deux par nous appeler. Elles nous font signe, nous invitons à entrer dans la vie avec elles. Mais après cette première similitude, les contrastes sont frappants. Car juste sous la surface de cette similitude d'hôtesse, nous voyons une énorme différence dans leur motivation. La folie est en réalité une chasseuse cherchant une proie. La sagesse est une enseignante cherchant des élèves. La sagesse est sévère et elle corrige dès le tout début. La folie est flatteuse. Ses paroles, comme on en est averti à plusieurs reprises, sont onctueuses et coulent comme du miel. La sagesse nous parle de toutes nos erreurs et nous dit de nous prendre en main, alors que la folie nous dit que nous sommes merveilleux, spéciaux et uniques. C'est nous seuls qu'elle est venue chercher. La sagesse offre l'instruction et des conseils. La folie offre le plaisir et la satisfaction des plaisirs charnels. La nourriture, le vin, le sexe, les plaisirs illicites et les sensations constituent son fonds de commerce. Comme la sorcière blanche des chroniques de Narnia de C.S. Lewis, elle nous promet des loukoums, mais donne du pain sec et un donjon de pierre. La sagesse éduque ses élèves pour les libérer, alors que la folie enchaîne ses élèves à leurs passions les plus basses pour en faire des esclaves. Après des plaisirs éphémères, ses invités éprouvent d'amers regrets. Enfin, la sagesse exalte ceux qui l'aiment par la puissance, le succès, la vie et la paix, alors que la folie mène ses victimes dans la mort. Une exécutrice pour Dieu et une meurtrière pour le diable, la folie tue finalement ceux qui viennent à elle. Résumé, le contraste entre la sagesse et la folie. Pour réviser, le contraste entre les rôles de la sagesse et de la folie et leur progression peuvent être résumés ainsi. La sagesse cherche des élèves, la folie chasse des proies. La sagesse corrige et enseigne, la folie flatte et séduit. La sagesse conseille et éduque, la folie trompe et rend esclave. La sagesse bénit et glorifie, la folie mène à la mort. Remarquez la déféminisation progressive de la folie. Initialement, nous pensons qu'une séductrice est plus sexy ou féminine qu'une figure de la mère, qui est la façon dont la sagesse nous aborde. Mais qu'est-ce qui pourrait finalement être moins féminin qu'un bourreau? D'un autre côté, la sagesse devient plus douce, plus riche et plus féminine pour ceux qui la recherchent, année après année. Remarquez aussi l'évolution entre donner et prendre. La folie commence par donner. Elle nourrit notre ego de flatterie et nos convoitises de plaisirs mondains. À la fin, elle prend tout. Notre force, notre santé, notre temps et finalement nos vies mêmes. La sagesse commence par exiger beaucoup, notre obéissance, la concentration, le travail acharné et la loyauté. Mais à la fin, elle donne des richesses au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Avant d'étudier quelques femmes de folie en particulier dans les Écritures, posons-nous une question gênante. À quel point les modèles féminins que nous suivons ressemblent-ils aux modèles de la folie? Nous sommes toutes, dans une certaine mesure, comme la folie, parce que nous sommes des femmes pécheresses. Et nous sommes toutes, comme la sagesse, dans une certaine mesure parce que parfois, au moins, nous agissons selon ces exemples justes. Supposez que vous vouliez exceller en femme de folie. Ces directives seraient un excellent point de départ. Elles englobent bien les bases. Pour progresser en femme de folie, vous devez dédaigner, mépriser et oublier Dieu. C'est préférable de le faire en vous rebellant contre toutes les autorités humaines de votre vie, mari, parents, patrons, enseignants, anciens de l'Église, représentants gouvernementaux. Pour être insensé, rejetez la correction. Pour être encore plus insensé, tournez-vous contre ceux qui voudraient vous corriger pour les attaquer. Quand on le corrige, un vrai fou va nier ses mauvaises actions et se retourner contre celui qui le corrige pour l'attaquer. C'est la marque du véritable insensé. Soyez toujours une lâcheuse. À chaque fois qu'une course ou une épreuve devient trop difficile, laissez tomber immédiatement. Supportez un entraînement rigoureux et uniquement pour ceux qui voudraient être sages. Pour être insensé, vous devez souvent changer d'avis, en particulier en ce qui concerne vos engagements, surtout vos engagements religieux. L'hypocrisie hâtera grandement votre voyage sur le chemin de la folie. Tenir ferme dans l'épreuve n'est réservé qu'aux gens qui vont dans l'autre sens. Assurez-vous de parler beaucoup, bavardez, jacassez, faites étalage de vos opinions, parlez toujours sans réfléchir. Puis, pour progresser en puissance destructrice, passez au mensonge, à la tromperie, à la médisance et au commérage. Cela sera facile à faire. Comme quelqu'un l'a dit, votre langue est déjà une boule de feu destructrice, il n'y a qu'à la laisser faire. Malheureusement, l'histoire de notre première mère est en partie une histoire de femme de folie. Ève vivait dans l'innocence mais est devenue insensée lorsqu'elle s'est détournée de la vérité qu'elle connaissait pour se livrer à de vaines spéculations sur la nature de l'arbre. Étant séduite, elle a péché. La Bible dit qu'Ève a été trompée. Quelle est la nature de la tromperie? Si être trompée signifie ne pas comprendre ce qui se passe, alors pourquoi en est-on tenu responsable? Néhémie donne une réponse claire à cette question. Certains de ses ennemis ont essayé de le tromper, mais il a pu résister. Néhémie va voir un soi-disant ami du nom de Shemaéja, qui lui dit en Néhémie 6, versets 10 à 11. « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. » C'est illégal pour Néhémie d'entrer dans le temple car il n'est pas prêtre. Mais son soi-disant ami, Shemaéja, lui dit « Ta vie est en danger. Viens, nous devons nous cacher dans le temple. Fermons la porte. Ils ne te chercheront pas ici parce que tu n'es pas censé y être. » Mais Néhémie répond « Non, c'est mal, je ne vais pas le faire. » Remarquez le résultat au verset 12. « Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. » Mon père m'a cité un proverbe une fois quand j'étais petite. Je ne l'ai jamais oublié. Obéir à la lumière apporte plus de lumière. Rejeter la lumière apporte la nuit. Néhémie avait un peu de lumière. Il savait, grâce aux Écritures, qu'il ne devait pas aller dans le temple. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Shemaïja avait été payé pour le tromper et le détruire. Néhémie avait peur et il avait vraiment envie de se cacher, mais au moment de l'épreuve, il est demeuré dans la vérité qu'il connaissait. En refusant d'aller dans le temple, il s'est accroché à la lumière qu'il avait. Et alors qu'il a fait cela, il a été encore plus éclairé et il a compris, la Bible dit qu'il a reconnu ou perçu, que Shemaïja le trompait. Une chose semblable aurait pu arriver à Ève. Ève ne percevait peut-être pas la tromperie du serpent, ne comprenait peut-être pas qu'il était le diable incarné, et n'aurait peut-être jamais compris ce qui n'allait pas dans ses arguments. Mais si elle s'en était tenue à la lumière qu'elle avait, nous ne devons pas manger de cet arbre, un point c'est tout, elle n'aurait pas désobéi. Il est très probable qu'à ce moment-là, ses yeux se seraient ouverts, non pas sur l'expérience du péché et de la culpabilité, mais sur le caractère mauvais de Satan. Mais comme nous le savons, elle ne s'en est pas tenue à la lumière qu'elle avait. La manière de nous garder de la tromperie est de nous accrocher à toutes les vérités que nous avons. Ève ne l'a pas fait. Elle a été séduite. Remarquez que Satan est l'archétype masculin du trompeur. Il s'est servi des mêmes outils que la femme de folie, la flatterie et les plaisirs sensuels. Satan a dit à Ève qu'elle serait un dieu. Le fruit était beau, il devait être bon. Satan a également tenté Ève à se livrer à de vaines spéculations. Il a remis en question la vérité qu'elle connaissait. Il lui a demandé, Dieu a-t-il réellement dit? Croyant au mensonge, elle s'est livrée au péché et a reçu les conséquences d'une mort morale. Dès qu'elle a succombé et pris le fruit, elle cherche à en donner à son mari. Cela nous fait réfléchir. Ève a-t-elle vraiment cru qu'elle était devenue un dieu? Est-ce pour cela qu'elle voulait qu'Adam soit impliqué? Ou bien cela l'a-t-il rendue malade intérieurement en sachant que ce qu'elle avait fait était mal? Étant maintenant dans le péché, elle voulait qu'Adam soit coupable aussi. Quand j'ai posé cette question, la plupart des gens pensaient que c'était la seconde réponse, et je suis d'accord avec eux. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment cru qu'elle était un dieu. Je crois qu'elle savait qu'elle venait d'entrer dans le péché. Ayant été trompée, elle est devenue trompeuse à son tour et une incarnation de la folie. De tous les couples bibliques, aucun ne surpasse Samson et Delilah comme modèle de relation entre le fou et la folie. Samson a aimé plus d'une femme païenne, et faisant cela, il a rejeté les appels de la sagesse. Mais Delilah a causé sa perte véritable. Nous ne savons pas à quel moment Samson a réalisé que Delilah était un agent des Philistins. Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi Samson n'était pas perturbé par le fait que Delilah lui pose plein de questions sur son secret, qu'elle le lie pour l'affaiblir, et surtout que des Philistins ne cessent de surgir de derrière ses rideaux. Je me suis demandé, mais pourquoi cela ne dérange-t-il pas Samson? Il revient toujours. J'en ai conclu que dans son orgueil, il avait tellement confiance dans sa force physique qu'il se croyait invincible. Il savait qui était Delilah et de quoi elle était capable, mais trouvait que c'était un plus à son charme illicite. Ce sentiment d'orgueilleuse invincibilité est une caractéristique de plusieurs sortes d'insensés. Les joueurs d'argent croient fermement qu'ils ne perdront pas. Les ivrognes sont absolument sûrs de ne pas être alcooliques. Les personnes aux mœurs légères sont absolument sûres, elles, de ne jamais contracter de terribles maladies. Les Philistins n'arrêtent pas de surgir de derrière des rideaux, si l'on peut dire, mais ces personnes insensées ne s'enfuient pas. Elles pensent, nous pouvons bien rester dans la folie, parce qu'il ne nous arrivera rien. Delilah est comme la folie, parce que ses paroles mielleuses et sa force de persuasion l'emportent. La folie est persistante. Delilah n'a pas arrêté de harceler Samson jusqu'à ce qu'elle ait atteint le fond de son cœur, la vérité sur son secret. Alors, elle l'a remis à ses ennemis. C'est une image macabre. La première chose que font les Philistins, c'est de lui crever les yeux. La voie d'un insensé est un chemin qui le guide vers les ténèbres. Quand nous suivons nos natures pécheresses, nous nous enfonçons de plus en plus dans les ténèbres. Obéir à la lumière apporte plus de lumière. Rejeter la lumière apporte la nuit. Samson a rejeté la lumière qu'il avait et il a reçu la nuit, spirituellement et physiquement. En plus, on lui a fait moudre le grain de ses ennemis. On l'a enchaîné et forcé à travailler comme un esclave. Même si Proverbe 5 a été écrit bien des années après la vie de Samson, ce passage nous fait penser à lui. Écoutez ces paroles, les paroles d'un homme qui est arrivé à sa propre fin par la folie. Proverbe 5, versets 12 à 14. Comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs, au milieu du peuple et de l'assemblée. À la fin, Samson a crié à Dieu et il a été entendu. Dieu lui a permis de faire tomber le temple des Philistins, tuant ainsi davantage d'ennemis par sa mort qu'il n'en a tué pendant sa vie. La sagesse n'entend pas les fous lorsqu'ils crient, mais souvent, Dieu les entend.
Il a entendu le brigand sur la croix quand il était en train de mourir dans sa folie, et il a entendu Samson aussi.
La sagesse ne va pas venir arranger votre vie.
Mais Dieu vous sauvera de vos péchés dans sa grâce si vous lui demandez. Dieu vous fera peut-être grâce de bien d'autres manières également, mais il ne va pas reconstruire toute votre vie non plus. Il n'efface pas toutes les conséquences de vos choix. Il respecte trop notre personne pour cela. Samson est bien mort aveugle avec les Philistins comme un exemple de l'insensé qui meurt dans sa folie. Mais il est mort en ayant eu l'exaucement à sa prière de se venger de ses ennemis, remplissant ainsi la mission de sa vie. Finalement, sur une note plus positive, la femme de Potiphar et Joseph forment un merveilleux exemple de la folie et de l'homme sage.
La femme de Potiphar essaye à plusieurs reprises de séduire Joseph, mais il résiste à ses tentatives.
En Genèse 39, versets 7 et verset 10, nous lisons. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. À la fin, la femme de Potiphar va jusqu'à agripper Joseph pour l'embrasser. Il court, lui laissant son manteau. C'est une image très littérale et vivante d'un homme sage qui résiste et fuit la folie. Joseph devient effectivement un grand et sage dirigeant plus tard dans sa vie, et cette expérience a fait partie de sa formation. Il allait encore avoir à subir plusieurs années de formation rigoureuse en prison. Mais son choix de fuir la folie a été un pas important dans la formation d'un caractère digne de recevoir l'exaltation qu'il connaîtra ultérieurement. En lisant cette leçon, vous êtes peut-être en train de vous dire « C'est intéressant, mais cela ne me concerne pas du tout puisque je ne suis pas une séductrice. Je ne suis pas comme Delilah. Je ne suis pas un agent secret pour l'ennemi et je ne représente pas un piège mielleux. Je ne suis pas comme la femme de Potiphar, une femme au foyer, dans sa villa, qui s'ennuie mangeant des chocolats et séduisant le jardinier. Rien de tout cela ne s'applique vraiment à moi. Puisque vous ne pouvez pas vous identifier à la femme adultère, je veux vous présenter plusieurs versions de la folie féminine. Je suis absolument convaincue que la folie et ses façons de faire sont cachées à l'intérieur de notre nature pécheresse à toutes, que nous le sachions ou pas. Les proverbes mettent l'accent sur la séductrice parce qu'elle représente littéralement un danger réel pour les jeunes hommes pour qui ce livre a été écrit à l'origine. De plus, c'est probablement l'image la plus vivante qui soit des techniques de flatterie et de séduction. Mais la folie a plusieurs visages. À chaque fois que vous avez une femme qui présente un message initial agréable, tentant ou émoustillant, mais qui conduit à la corruption morale et à la folie, vous avez une femme de folie. Considérons trois éventuelles femmes de folie. Des femmes trompeuses que l'on pourrait trouver chez la simple et banale monitrice de l'école du dimanche. L'une d'entre elles pourrait être celle qui nie la vérité et l'autorité de la Bible, les remplaçant par une théologie libérale. Une autre enseigne le légalisme, en remplaçant la vérité et la grâce de Dieu par la capacité de l'homme à suivre des règles. Enfin, il y a l'enseignante simpliste qui, au lieu de présenter la parole de Dieu comme une épée et comme un festin de richesse, donne un enseignement banal à l'eau de rose. Des monitrices insensées peuvent enseigner l'une de ces erreurs, ou les trois à la fois. Quand elles le font, soit elles préparent leurs jeunes auditeurs à rejeter le christianisme comme étant faux, soit elles encouragent leurs élèves à devenir de pires pharisiens qu'elles-mêmes. Dans tous les cas, même si elles peuvent paraître inoffensives, ces monitrices sont des femmes de folie qui entraînent les naïfs à la destruction. Selon le modèle biblique, le père, dans le noyau familial, est semblable à un roi avec sa femme comme reine et dame de sagesse à ses côtés. Les enfants sont comme des petits insensés qui grandissent autour d'eux et qui, espérons-le, sont formés à devenir des personnes sages. La mère doit être une conseillère pour son mari, se tenant à côté du roi pour lui donner de bons conseils. C'est une dame de sagesse pour ses enfants. Elle les élève en les corrigeant et en les instruisant. Cependant, si une mère n'est pas sage, mais est indulgente par exemple, c'est une femme de folie. Les femmes qui ne corrigent jamais, mais couvent plutôt leurs enfants et ne leur donnent aucune limite, les préparent pour la destruction. Une femme de folie encore plus évidente est la sorcière. Celles qui sont attirées par l'occultisme et ses pratiques, comme l'horoscope ou l'astrologie, peuvent être les instruments de Satan pour tromper et séduire. Il y a de nombreuses sorcières dans notre pays aujourd'hui. Des femmes qui sont profondément impliquées et au diapason des idées, des pouvoirs et des pratiques des fausses religions et des puissances occultes. Elles peuvent être laides avec une pancarte à l'intérieur qui dit « Irma, je lis dans les lignes de la main » ou elles peuvent être belles, habillées de manière professionnelle en présentant les croyances du Nouvel Âge. Dans les deux cas, elles constituent une variété de sorcières, de véritables et dangereuses femmes de folie. Une autre sorte de femme de folie séduisante peut être l'enseignante en sciences humaines, érudite et humaniste. Je n'ai pas dit que tous les professeurs en sciences humaines, érudits, étaient des femmes de folie. J'ai dit les professeurs en sciences humaines, humanistes. Réfléchissez à l'exemple de Margaret Mead. Nicola Davidson écrit dans son livre intitulé « The Failure of Feminism »,« L'échec du féminisme », aux pages 167-168. Ma citation est assez longue parce qu'elle décrit bien le talent d'une femme de folie et son influence à grande échelle, sur un sujet qui nous intéresse tout particulièrement, c'est-à-dire la nature des sexes. Il est difficile de surestimer l'influence de Maid sur la pensée des gens dans notre pays. Des centaines de jeunes étudiants ont décidé de devenir anthropologistes après avoir lu l'un ou l'autre de ses nombreux ouvrages. Les écrits de Maid sont le principal émetteur des idées anthropologiques pour le grand public. Durant les 60 dernières années, depuis la publication de son best-seller, Mœurs et sexualité en Océanie, elle a été la voix de l'autorité sur les questions du sexe, des sexes et de la culture. L'influence de Maid sur la pensée a dépassé celle de n'importe quel autre théoricien, Freud inclus. En dehors de son énorme prestige au sein de la profession d'anthropologiste, elle a dirigé une influence directe encore plus grande sur le public auquel elle a pu s'adresser sans l'intermédiaire du consensus professionnel ou des reportages journalistiques. Elle a beaucoup vulgarisé le déterminisme culturel, en particulier tel qu'il est appliqué à l'homme et à la femme. Maid a revêtu l'idée du déterminisme culturel, de couleur vive et inoubliable, et elle l'a apporté au public non anthropologue comme étant une idée simple et irréfutable qui promettait une société meilleure. C'était un argument de persuasion exceptionnel. Davidson cite Maid. Beaucoup, sinon tous les traits de personnalité que nous avons appelés masculins ou féminins, sont aussi peu liés au sexe que le sont les vêtements, les manières et les formes de coiffure qu'une société attribue à l'homme ou à la femme à une période donnée. Nous sommes forcés de conclure que la nature humaine est assez incroyablement malléable, réagissant exactement et avec contraste à des conditions culturelles contrastées. Les différences entre des individus qui appartiennent à des cultures différentes, comme les différences entre les individus appartenant à la même culture, peuvent presque entièrement être mises sur le compte des différences de conditionnement, surtout au cours de la petite enfance. Et la forme de ce conditionnement est déterminée culturellement. Les différences standardisées de la personnalité entre l'homme et la femme sont de cet ordre, des créations culturelles auxquelles chaque génération, homme et femme, apprend à se conformer. Commentant Maid, Davidson écrit ensuite, à la page 168. La preuve la plus prestigieuse de Maid vient de son étude sur l'homme et la femme dans les sociétés primitives. Cela semble être une preuve impressionnante qu'une société puisse, sans aucune sérieuse difficulté, assimiler les tempéraments des hommes et des femmes à une norme unitaire, sans contradiction avec les forces biologiques, et ainsi établir un égalitarisme sexuel. Les hommes pouvaient être féminins et les femmes masculines. L'homme et la femme pouvaient être tous les deux masculins ou féminins. Ces différentes solutions, soutenait Maid, avaient leurs forces et leurs faiblesses caractéristiques. C'était au peuple de choisir quel équilibre serait le meilleur pour leur propre société. Davidson continue à la page 171. On a dit que même les phases de la maturation psychologique humaine étaient déterminées culturellement. Les adolescents de Samoa passaient simplement, pour ainsi dire, d'une enfance facile, non endommagée par la dureté parentale, à une adolescence sans souci, en préparation pour une vie d'adulte sans exigence. Voici comment Maid décrit cette île paradisiaque. Alors que l'aurore commence à poindre sur les doux toits bruns et que les palmiers élancés ressortent sur la mer limpide et miroitante, des amants se glissent de leur rendez-vous amoureux sous les palmiers ou dans l'ombre des canoës sur la plage, jusque dans leur maison afin que la lumière puisse trouver chaque dormeur au lieu convenu. Quelle vision ! Quelle vision de félicité pour ces lecteurs adolescents occidentaux, perturbés par la frustration sexuelle, l'incapacité de comprendre le sexe opposé, l'acné, la pression parentale et les exigences insistantes d'une société d'adultes. Pas étonnant que l'anthropologie culturelle ait été autant appréciée des occidentaux du XXe siècle. Quelle autre science pouvait promettre un avenir d'amour sous les palmiers ? Je me souviens de mon enfance, quand je rentrais à pied de l'école chez ma grand-mère, il y avait tous ces magazines féminins. Il y avait presque à chaque fois un article de Margaret Mead. Cette femme est l'exemple d'une personne qui a été une femme de folie pour notre pays tout entier. Ses paroles mielleuses, si attirantes en apparence, nous ont séduites jusqu'à croire qu'il n'y a pas besoin de normes sexuelles. Il n'y a pas besoin non plus de tabous sexuels stricts ou d'avoir le sens des limites. Nous pouvons tout simplement composer nos identités sexuelles au fur et à mesure. Ce sont les paroles d'une femme de folie. Sur une note plus positive, notre société a ses dames de sagesse aussi bien que ses femmes de folie. De nombreux professeurs de littérature au lycée ont pu incarner la sagesse de bien des manières. Une langue, parlée et écrite, est la clé d'une grande puissance. Le pouvoir de l'esprit, de la compréhension, le pouvoir de connaître son identité et ses racines, le pouvoir de conquérir et de fonctionner dans la création de Dieu. Mais souvent les jeunes hommes jouent les insensés et rejettent les femmes sages. Ils se rebellent et refusent d'apprendre la grammaire, de rédiger des exposés et de lire les œuvres classiques. Alors que se passe-t-il ? Ils continuent dans la vie et plus tard ils désirent ardemment être plus lettrés, parce qu'ils trouvent dans le monde réel du travail et des relations qu'ils ont besoin de savoir lire, écrire et bien parler. Je connais un homme qui a demandé à sa femme de l'aider à apprendre à écrire, tard dans la vie. En profitant d'une seconde dame de sagesse, après avoir raté les premières, il a pu progresser dans sa société grâce à elle. Au fil des années, ce cours a suscité diverses réactions. Celle qui me vient immédiatement à l'esprit est celle d'une jeune femme en Allemagne qui a assisté à un séminaire d'une journée sur la présentation des 5 aspects. Elle est venue me voir après le séminaire pour me dire « Voilà qui explique quelque chose que je ne comprenais pas du tout. J'ai fait la connaissance d'une femme qui m'a abordée de manière très douce. Elle était tout sucre, tout miel, mais plus tard, j'ai découvert qu'elle était en fait très méchante et même vicieuse. Par ailleurs, j'ai rencontré une autre femme que j'ai trouvée très difficile à connaître. Pourtant, au fur et à mesure, je trouve que c'est une personne vraiment merveilleuse. J'étais très perplexe à ce sujet, mais maintenant je vois qu'une fois de plus, ce sont les modèles de la folie et de la sagesse qui se répètent. Effectivement, chacune de nous verra ces modèles encore et encore, car la vie est réellement un choix entre ces deux femmes. Nous devons rechercher l'une et fuir l'autre. De plus, en tant que femmes, nous devons prendre l'une pour modèle et mettre l'autre à mort.